L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous voilà pour une nouvelle émission sur ce chemin de l'évangile pour le couple. Et aujourd'hui, alors, nous allons aborder un texte, alors là, que tout le monde adore au niveau de sa formulation. Vous allez voir, ça va en faire grincer quelques dents. Ce sont les paroles de Paul qui lui ont valu cette image de très grand misogyne. Maud, c'est à toi de lire les textes parce que moi, ça serait pire.
Je crois qu'il vaut mieux. Alors, je citerai juste quelques phrases de cette fameuse épître aux Éphésiens. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Maris, aimez vos femmes comme le Christ aime l'Église, et il s'est livré pour elles. »
Voilà, alors c'est effectivement cette soumission, etc., qui a valu effectivement à toute l'Église de justifier que les hommes aient autorité sur leurs femmes, etc., et toute la misogynie et compagnie, etc. Bon. Alors, on va essayer, bien sûr, d'en avoir une lecture qui soit autre. Et notamment, justement, on va essayer peut-être de prendre cette deuxième parole. Marie, aimez vos femmes comme le Christ aime l'Église et s'est livré pour elle. Il y a beaucoup d'exemples dans l'Évangile où, justement, il nous est donné l'image du Christ. Il nous est décrit comment le Christ aime ses apôtres, aime cette Église naissante. Et comment il le décrit. Et notamment, il y a un élément qui est absolument central, puisque dans l'évangile de Jean, il remplace même l'Eucharistie. Trois évangiles, il y a la description de l'Eucharistie. Dans l'évangile de Jean, l'Eucharistie n'existe pas, mais uniquement le lavement des pieds. Et le Christ lui-même, justement, dit « Si moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » C'est un exemple que je vous ai donné et vous ferez comme j'ai fait. Donc ça veut dire que la manière d'aimer du Christ pour ses apôtres, pour son Église, c'est complètement le service, c'est la tenue de service. Et donc, en tant que mari, est-ce que vous croyez que c'est vraiment une manière dominante, autoritaire ? Que d'aimer son épouse comme le Christ aime l'Église, c'est-à-dire avec la tenue de service. C'est vraiment ce service plein d'humilité dont l'exemple est ce lavement des pieds.
Et pour les femmes, je pense qu'on peut aussi retenir cette phrase de Paul plutôt comme un indicateur d'un point de conversion que nous avons souvent à travailler, plus particulièrement les femmes. Soyez soumises à vos maris, c'est pas la soumission bête, c'est que dans le service mutuel, dans le service de la famille, de notre époux, eh bien parfois nous ne sommes pas dans la soumission, même si nous sommes dans des tâches humbles, parce qu'il y a une soumission à quelque chose de plus fort, qui est la soumission au Christ et à l'Esprit-Saint, qui est discerné ensemble. Et c'est là où je crois qu'on va rentrer dans une notion qui est un petit peu nouvelle, qui est la soumission mutuelle. C'est que dans le Christ, le couple est appelé à vivre une soumission mutuelle et un service mutuel, humblement. Et justement, c'est là où il y a quelque chose de complètement, radicalement nouveau.
Mais c'est vrai que j'entends tout de suite, mais attendez, vous rêvez complètement là, vous êtes en train de décoller au 7e ciel, Alex et Maud. Mais c'est vrai que c'est irréalisable. Mais c'est irréalisable humainement, on est tous d'accord. Mais, c'est-à-dire que même on peut y aspirer, etc., mais comment concrètement le mettre en œuvre? Mais c'est justement parce que, comme tu dis Maud, nous rentrons dans cette soumission à l'Esprit-Saint, que nous rentrons dans la foi au Christ, que nous pouvons être mené sur ce chemin qui, au fur et à mesure, fait que nous pouvons rentrer dans ce service l'un de l'autre qui nous est impossible de nous-mêmes avec tous nos fichus caractères. Et Alex et Maud, peut-être bien avant beaucoup d'autres.
Ça, nos enfants confirmeraient.
Mais... et nos frères et nos sœurs, etc. Bon. Et voilà. Donc c'est ça qui est important, c'est que c'est cette soumission, c'est parce que nous accueillons le Christ comme premier dans nos vies, et ensemble, et que nous le confessons ensemble, et que nous essayons de l'aimer ensemble, que nous pouvons rentrer dans cette soumission, finalement, l'un à l'autre. Parce que nous rentrons dans la soumission au Seigneur.
Voilà, donc il ne s'agit évidemment pas d'être soumis aux caprices de l'autre. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est d'être soumis, justement, à ce service mutuel et à l'amour que nous avons l'un pour l'autre. Et à partir du moment où on arrive à rentrer dans cette démarche où cette soumission est une soumission comme signe d'amour et pas une soumission bête qui n'a aucun sens, à ce moment-là, on rentre dans une lecture mutuelle de ce que l'Église, l'Esprit nous dit dans le domaine de l'amour.
Alors c'est là où j'aimerais qu'on aille un peu plus loin encore dans ce modèle qu'est le Christ pour nous dans l'amour conjugal. On a parlé de cet amour de Jésus vis-à-vis des apôtres. C'est comme ça qu'on doit s'aimer en tant que couple. Mais Jésus dit, mon modèle de la manière dont je vous aime, c'est la manière dont j'aime mon Père et dont mon Père m'aime. Voilà. Donc c'est une indication déterminante qui nous est donnée lors de la dernière scène. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Donc ça veut dire que nous devons regarder et prendre pour modèle l'amour de Jésus pour son Père et du Père pour le Fils. Et c'est ça qui est essentiel. Il y a une parole qui est très forte lors de la dernière scène, toujours dans l'évangile de Jean. C'est la prière, l'invocation, l'intercession de Jésus à son Père. « Qu'ils soient un comme nous sommes un, dit Jésus. Qu'ils soient un, que les apôtres soient un. » Comme nous sommes un. Donc c'est ce modèle de ce un de Jésus et de son Père. Or nous, en tant que couple, qu'est-ce qu'on est? Quel est notre appel? Rappelez-vous les paroles de la Genèse. De deux, nous sommes appelés à faire un. Nous sommes à l'image de Dieu, et à l'image de Dieu Trinité. Tout ça, c'est impossible pour nous. Mais par la grâce de Dieu, par la soumission à l'Esprit de Dieu, comme disait Maud tout à l'heure, nous pouvons rentrer dans cette unité. C'est vraiment l'amour de Jésus et de son Père qui les fait un, qui est notre modèle.
Voilà, c'est pour ça que quand on reprend cette image, justement, d'être couple à l'image de l'amour qui est en Dieu même, eh bien, nous pouvons constater que nous faisons un seul corps, quelque part. Le couple est un corps, et quelle en est la tête ? Eh bien, c'est le Christ. De la même façon que pour l'Église, la tête de l'Église, c'est le Christ. Et c'est parce que le Christ est, si je puis dire, au milieu de nous, que nous pouvons rentrer dans cette soumission mutuelle, parce qu'il y a une confiance dans ce que l'autre va nous demander. S'il nous demande de faire des choses aberrantes, on ne voit pas pourquoi on rentrerait dans une soumission. Mais s'il nous demande d'aller plus loin dans l'amour, et qu'au nom du Christ, d'avancer dans notre conversion personnelle pour faire grandir la qualité de l'amour, alors on n'a aucune difficulté à être dans une soumission, je dirais, au contraire, intelligente, même si elle est difficile, parce que parfois les points de conversion ne sont pas simples, mais justement, elle attire, elle est enthousiasmante. On est très loin de l'idée de la soumission qu'on peut se faire dans la société.
Voilà, et c'est pour cela que Paul explicite un peu plus par sa parole, comment nous sommes articulés, comme nous sommes un. C'est souvent des paroles d'ailleurs qui sont appliquées à l'Église et qu'on applique peu au couple. Mais on va essayer avec vous de l'appliquer à notre vie conjugale, à cette unité conjugale telle que le Christ nous le propose. Paul écrit aux Romains dans le chapitre 12, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que ses membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Voilà, donc chacun pour notre part. Nous sommes membres les uns des autres pour former qu'un seul corps. Nous sommes membres l'un de l'autre en tant que couple pour former le corps du Christ, pour former une seule chair, parce que nous y sommes appelés depuis les origines et au travers de notre sacrement de mariage.
Et à l'intérieur de ce corps, chacun va avoir sa vocation propre, son charisme propre, sa féminité, sa masculinité, et ses talents, ses compétences, peu importe, tout ce qui nous est donné comme matière, va pouvoir s'exprimer, et chacun dans le meilleur de lui-même. Et je reprendrai une autre parole de Paul, à chacun sa vocation pour la construction du corps du Christ. Et les enfants, tous les membres de la famille prennent part à l'édification de ce corps.
Et justement ce corps, nous pouvons le former parce que nous sommes appelés par le Christ. Voilà, hein, c'est aussi l'épître aux Colossiens, appelés par le Christ pour ne former qu'un seul corps. Et ceci est possible par l'Esprit qui nous conduit. C'est en cela, encore une fois, que la première épître aux Corinthiens, celui qui se nie au Seigneur n'est avec lui qu'un seul esprit. Voilà. C'est par l'esprit que nous sommes conduits à construire cette unité. Et pour finir cette première partie, on va reprendre encore cette transposition, cette dernière parole que Jésus exprime lors de la dernière scène. Voilà. Et qui sont tellement des paroles, allez, quasi conjugales. Allez, écoutons bien. Je connais mon Père, je demeure en son amour. Je vis par le Père. Le Père a marqué son Fils de son sceau. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Qui me voit le Père. Qui voit le Père me voit. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Voilà, toute cette unité et cette communion, aussi en tant que couple, nous sommes appelés à la vivre. Allez, à tout de suite.
Voilà, nous reprenons ce thème justement du service mutuel, de la soumission mutuelle, comme nous avons vu dans cette première partie, avec le lavement des pieds du Christ, qui est justement un indicateur de l'amour dont nous sommes appelés à vivre à deux dans le couple. Et je pense que dans cette partie, on pourrait aussi faire l'autre parallèle avec l'Eucharistie, qui est justement le même sens que celui du lavement des pieds, c'est-à-dire le don total dans l'amour.
Alors, on a, vous savez que ceux qui suivent en tout cas cette émission depuis quelques mois savent qu'on a un grand amour pour Jean-Paul II, pas simplement parce qu'il nous est sympathique, mais parce que c'est un vrai prophète, un grand théologien, très très grand théologien, comme rarement l'Église en a connu de pareil, et en tout cas unique sur le domaine du sacrement du mariage et du sacrement du corps.
Ah oui, il est complètement prophétique dans beaucoup de choses et peu connu encore. Donc on va essayer de détailler quelques-unes des perles qu'on a piochées dans ces textes.
Et voilà, et notamment, il a par rapport à tout le sacrement du mariage, qui est aussi un sacrement du corps, un sacrement d'une seule chair, il fait un parallèle constant sur l'aspect théologique, pastoral, spirituel, entre le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de mariage. Voilà, il désigne le sacrement de l'Eucharistie comme le premier sacrement et le sacrement de mariage comme un sacrement primordial, dans le sens primordial au niveau de la vie, au niveau de la genèse. Voilà, et ils disent que tous les deux sont ancrés dans le mystère même de l'Église, corps et épouse du Christ. C'est ce que nous avons essayé d'évoquer tout à l'heure. Et voilà une de ces paroles, par exemple, que nous pouvons méditer, qui est puissante. Le grand mystère qui est l'Église et l'humanité dans le Christ n'existe pas sans le grand mystère qui s'exprime dans le fait d'être une seule chair, c'est-à-dire dans la réalité du mariage et de la famille. Voilà. Voilà. Eucharistie et mariage, deux sacrements du corps qui apparaissent de nature spirituelle et théologique fort semblables.
Voilà, justement, c'est assez étonnant de constater que le sacrement de mariage, qui est justement scellé par l'union des corps, est quelque part dans la même, je peux dire, veine existentielle que le sacrement de l'Eucharistie, qui est le corps livré et offert en nourriture pour tous. Donc il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire, même s'il faut être très prudent, parce qu'on ne peut pas non plus théologiquement comparer de façon très stricte les choses.
C'est plutôt par analogie, disons
en contemplant le mystère de cette Eucharistie qui est signe du corps qui est donné par amour. Les époux peuvent aussi comprendre à quel point leur étreinte sexuelle peut être un don des corps par amour, et justement dans une dimension oblative comme celle du Christ.
I need you like the rain.
Voilà, alors il y a plusieurs parallèles, effectivement, comme tu dis, Maud, que nous pouvons faire. Voilà, entre Jésus qui se présente lui-même corps livré, le pain vivant donné en nourriture, nous dit Jean au chapitre 6, et puis le parallèle avec le don libre, sans réserve, sans partage, que se font les époux lors de leur sacrement de mariage.
Voilà, on peut aussi faire le parallèle avec la nourriture en tant que telle, c'est-à-dire que le Christ livré est une nourriture pour nous, pour nos vies, pour notre vie spirituelle, notre vie personnelle, et la relation que l'homme et la femme vont avoir ensemble en se donnant l'un à l'autre est aussi une nourriture pour leur amour. Et va comme ça remplir leur amour d'une plénitude progressivement.
Voilà, alors justement, reprenons un peu les propos précis. Voilà, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Toujours dans le sixième chapitre de Jean. Et n'est-ce pas également c'est le même mystère auquel participent les époux quand ils nourrissent leur communion conjugale et s'expriment leur amour dans une étreinte, dans l'étreinte d'une seule chair.
Alors, un autre aspect qui peut nous éclairer sur cette analogie, comme on disait, c'est tout ce qui concerne la fécondité, l'ouverture, justement, à la vie, à la surabondance.
Voilà. Entre Jésus, voilà, qui invite ses disciples à demeurer en moi comme je demeure en vous, il existe ce mystère spirituel de ce « une seule chair », tel que Jésus le rappelle, et voilà, voici mon corps, prenez et mangez, prenez mon sang, prenez et buvez, voilà. Et donc, il donne naissance à une nouvelle humanité, et de même, l'époux et l'épouse qui s'unissent, n'est-ce pas également pour être ouvert, tôt ou tard, à une vie nouvelle, à celle de l'enfant. Vous voyez comme la vie nouvelle à laquelle conduit l'Eucharistie, eh bien, nous pouvons faire le parallèle également avec ceux une seule chair des époux qui, tôt ou tard, sont ouverts à la vie. Voilà, ce sont des mystères qui sont insondables et qui sont si lumineux et qu'il nous faut aller accueillir à genoux, qu'il nous faut adorer, qu'il nous faut contempler.
Voilà. Alors concrètement, c'est vrai que c'est très beau ces paroles de Jean-Paul II sur cette contemplation du mystère eucharistique et puis l'analogie avec ce qui se vit dans le couple. Mais je pense que concrètement, on peut dire que dans la vie conjugale, à chaque fois qu'il y a une blessure qui touche au corps, alors le sacrement de l'Eucharistie est particulièrement un sacrement de guérison. C'est pour ça qu'on a vu de nombreuses fois des personnes qui avaient cheminé sur des difficultés personnelles liées au corps, liées à des déviances sexuelles, liées à des blessures, qui avaient pu se guérir dans l'adoration ou dans les temps justement de contemplation de ce mystère du corps qui est donné et livré par amour. Et il y a une vraie force de guérison. Je pense que c'est important de le souligner parce que même si on ne peut pas communier, on peut contempler dans l'adoration le corps du Christ et recevoir une grâce de guérison.
De même au niveau de la communion, c'est pour ça que ce que tu dis, Maud, quand tu soulignes toute la puissance unificatrice du sacrement de l'Eucharistie et qui est vraiment tout particulièrement pour l'unité conjugale, rapportons des paroles de la prière eucharistique elle-même. Quand nous serons nourris de ton corps et de ton sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Combien ces paroles, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, peut se rapporter à la vie conjugale, elle-même, à la communion conjugale. Ce sacrement de l'Eucharistie est une nourriture toute singulière. C'est pour ça que Jean-Paul II dit aussi, par exemple, de manière large, mais après on peut le focaliser par rapport à la vie conjugale, l'Eucharistie crée la communion et éduque à la communion. Voilà, tout le peuple de Dieu, mais plus particulièrement les époux eux-mêmes. Et c'est aussi Saint Paul, c'est Jean-Paul II, là aussi encore, qui rapporte combien Saint Paul se réfère à l'efficacité unifiante du banquet eucharistique quand il écrit « Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ?» Pour le Christ et son disciple, demeurer l'un dans l'autre se réalise de manière sublime dans la communion eucharistique. Demeurez en moi comme moi en vous. Voilà, c'est par cette communion eucharistique que nous rentrons dans ce mystère de communion que donne le Christ. De même, c'est dans cette communion eucharistique que le couple se nourrit au niveau de son essence même, de sa racine même, de son propre mystère.
Oui, l'Eucharistie est une nourriture essentielle pour le chrétien, on le sait. Et j'aime citer cette parole de l'ange à Élie qui lui disait « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long ». Bien, parfois, dans l'amour, quand on a justement des difficultés à rentrer dans cette durée qui prend du poids au lieu d'être justement de plus en plus léger, eh bien, il faut penser à cette nourriture qui vient nous fortifier pour que le chemin ne soit pas trop long. Et dans ce sens-là, il y a une merveilleuse bienveillance, justement, de Christ qui veut nous rassasier par son corps, comme une force, comme une nourriture essentielle.
Et c'est ça qui est très important. Paul souligne combien c'est vraiment ce corps de Christ qui est puissance de restructuration et qui est rempart à la désagrégation. Hein, c'est le terme qu'utilise Paul dans l'Épître aux Romains. Voilà, c'est vraiment, il va au germe de la désagrégation entre les hommes qui apparaissent tellement enracinés dans l'humanité à cause du péché, s'oppose la force génératrice du corps du Christ. Voilà, c'est-à-dire que le corps du Christ est le germe qui s'oppose à la désagrégation. Donc nous voulons construire notre unité conjugale, nous voulons être corps, être un. Alors nous avons à accueillir la puissance spirituelle guérissante de l'Eucharistie, du corps de Christ. C'est vraiment cette bénédiction que nous invoquons vraiment sur chacun de ceux qui écoutent nos pauvres paroles en essayant d'être témoins de ce que le Christ annonce et révèle. C'est une très très bonne nouvelle. Accueillons cette force de l'Eucharistie qui nous permet d'unifier nos vies conjugales. Allez, À la semaine prochaine.
The extravagant love of God. The intimate friendship of the Holy Spirit. May the grace